Bonjour à tous, je vous invite à ouvrir la Bible et je vais partager le message de Noël en réfléchissant à Luc chapitre 2. Je ne suis jamais allé dans un casino, j'ai trouvé d'autres moyens de perdre mon argent, mais d'après ce que j'ai entendu, dans un casino, il y a une roulette et on peut lancer une bille et alors elle va atterrir quelque part sur le rouge ou le noir. Et vous pouvez miser sur le rouge ou le noir, mais vous pouvez aussi miser sur un chiffre en particulier en vous attendant à ce que la bille atterrisse dans ce milieu-là, sur cette case-là. Et si vous misez tout sur une case, alors vous rapporterez aussi plus. En fait, nous avons tout misé quelque part sur une personne. Nous avons tout misé, notre avenir, notre espérance, dans le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Mais sommes-nous sûrs de ce que nous annonçons? Avons-nous de raison de croire que ce que la Bible enseigne par rapport à Jésus est vrai? La naissance de Jésus est certainement une belle histoire. Elle est surprenante avec des éléments féeriques. C'est une histoire de quelqu'un qui est né dans la pauvreté et qui est devenu le plus grand des rois. Mais est-ce que cette histoire est vraie? Jésus est-il le divin enfant, bien plus qu'un être humain, le Fils de Dieu? Nous chantons « Il est né, le divin enfant », mais est-ce que c'est vrai? Je vous propose de lire un texte dans l'évangile de Luc, écrit une trentaine d'années après la mort de Jésus par un médecin non-juif qui s'appelle Luc. Et ce passage est atypique de ses écrits, et je veux que vous l'écoutiez attentivement. Vous allez entendre à travers cette lecture comment il écrit avec soin, de manière historique, pour que nous puissions être sûrs de ce que nous avons entendu. Luc chapitre 2, à partir du début du chapitre. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Que dit cette partie de la Bible sur Jésus? Quel est le sens de cette histoire? Ben, nous voyons en fait où il est né. Et nous avons parfois beaucoup de questions par rapport à quand il est né, est-ce que c'était le 25 décembre ou pas? Ben, probablement pas. Mais la Bible nous met plutôt devant les lieux de sa naissance et la lignée dans laquelle il est né. Et donc c'est à partir de cela que nous allons vraiment parler aujourd'hui. Tout d'abord, il est né dans la bonne ville. Il est né dans la bonne ville. Les remarques au départ de ce chapitre sont tout d'abord historiques. Jésus est né à telle période, à tel endroit. Ce n'est pas, il était une fois dans un charmant village, mais Luc nous aide à situer les événements à la période d'abord de l'empereur Auguste, qui est appelé aussi Octave, le premier empereur de Rome. Auguste signifie simplement grand, majestueux. Il voulait avoir ce titre-là, mais Octave était son prénom. Et pendant cette période, Quirinius allait être gouverneur de la région du Moyen-Orient. Et donc Luc nous permet de le situer avec cette introduction. Au verset 3, tous aller se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. En fait, c'est une question qui n'est pas simplement administrative, mais c'était pour voir qui pourrait être les contribuables, leur nom et leur adresse dans ces différentes régions. Et donc, tout le monde devait s'inscrire, mais il n'y avait pas de base de données, il n'y avait pas de carte d'identité, et donc c'est un peu embêtant, c'est un peu difficile de recenser tous les citoyens de la région. Et bien sûr, ce serait embêtant si le collecteur d'impôts vient à Bruxelles, mais ce jour-là, vous êtes à Liège. C'est embêtant pour vous s'il vous rencontre à Bruxelles, et puis à Liège, et puis à Mons. Et donc, le plus simple, sur le plan administratif, était que chacun aille dans sa ville natale. Pour moi, ce serait aller à Otigny. C'est pas tellement compliqué, mais je devrais rester là jusqu'à ce que les secrétaires aient noté chaque personne de chaque famille dans chaque rue. Ben forcément, il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude, et donc chacun dans en retournant dans leur ville, de trouver des villes bondées. Et Joseph doit y aller, et il est accompagné par sa femme Marie. Mais ce qui nous intéresse surtout est que c'est la bonne ville. La ville de Bethléem. Il part du nord, la Galilée, la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. C'est pas la bonne ville dans le sens de bourgeois, c'est pas qu'il y a beaucoup de riches dans cette ville, ou beaucoup de richesses. Ce n'est pas non plus une grande ville, elle était très peu connue à l'époque. Bien sûr, tout le monde connaît Bethléem aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une petite ville. Une petite ville un peu inconnue. Mais c'était la bonne ville vis-à-vis de la prophétie, car plusieurs siècles avant Jésus-Christ, le Seigneur avait dit à travers le prophète Michée, en Michée chapitre 5, « Et toi, Bethléem, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Jésus est né au bon endroit pour accomplir cette prophétie. Sa mère est allée là, elle était au bon endroit pour la naissance de ce divin enfant. Vous savez, je suis parent, je suis parent de trois garçons, mais les parents ont parfois une attitude un peu étrange. C'est que ils ont de grands projets pour leurs enfants et ils veulent que leur fils soit le prochain Lamine Yamal ou que leur fille soit la prochaine Angèle. Et donc, ils vont les inciter à s'entraîner, que ce soit au football ou au chant, pour pouvoir accomplir les projets de leurs parents. Mais Marie et Joseph, la maman de Jésus et le beau-père de Jésus, n'ont pas essayé de promouvoir le bébé Jésus ou de le faire naître au bon endroit. Ils sont allés tout simplement pour des raisons administratives à Bethléem. Il est né là comme il devait le faire, mais c'était selon Dieu. Marie n'accomplissait pas son propre projet, elle accomplissait le projet de Dieu. Et même le grand empereur Auguste, le grand empereur à Rome, qui faisait ses décrets pour accomplir sa volonté, il accomplissait la volonté de Dieu en faisant que le Messie naisse dans la bonne ville. Et les prophéties anciennes se sont réalisées. Elles étaient des prophéties très précises et nombreuses qui sont accomplies par la venue de Jésus dans le monde, mais que le Messie naisse dans cette toute petite ville est déjà une prophétie remarquable. Il aurait pu prophétiser que ce serait dans une des grandes villes, sans la nommer, ou la plus grande ville, Jérusalem, mais c'était une toute petite ville, et très peu de chances donc de se réaliser. Mais c'est là où Jésus est né. Regardons maintenant la suite. Il est né de la bonne lignée. Il est né de la bonne ville, celle qui était prophétisée, mais il est né aussi de la bonne lignée pour être roi et messie. Après l'introduction qui était plutôt historique, Luc en écrit la partie personnelle. Voici deux jeunes gens qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Joseph, qui veut obéir à Dieu, et donc il épouse Marie malgré qu'elle est enceinte. Et Joseph cherche aussi à obéir au décret de l'empereur, et donc il se rend dans sa ville natale, là où il est lui-même est né. Et donc ils partent pour un voyage et ils vont, malgré la grossesse de Marie, se retrouver là-bas à Bethléem. Mais remarquez comment la ville de Bethléem est décrite. Elle est de la ville de David, Et Joseph y va parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Et puis verset 11, à nouveau, il est dit, c'est dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Pour être le Christ, pour être le Messie, il doit être de cette lignée, de la maison de David. Peut-être que vous connaissez cette série House of David, où on est en train de voir l'histoire des rois. Tous les rois d'Israël ne sont pas venus de la maison de David. David était le deuxième roi, en fait. Mais le roi David a en effet reçu une promesse remarquable. Dieu lui a promis qu'il y aurait quelqu'un de sa descendance qui serait toujours sur son trône. Donc que Jésus naisse de la lignée de David, de la famille de la lignée de David, indique qu'il est dans cette lignée promise où quelqu'un va régner pour toujours sur le trône. Or, à l'époque où Jésus est né, en fait, il n'y a pas de roi sur le trône de David. Le roi de la région, Hérode, n'est pas de la lignée de David. Et donc, ça semble très peu probable qu'un fils de David va régner quelque part. Qui pourrait le faire? Il y a eu des prétendants, mais ils n'étaient pas de la bonne lignée. Ils ne pouvaient pas donc être le Messie. Jésus, par contre, est de la bonne lignée. Bien sûr, Jésus devait encore faire ses preuves. Avoir les bons ancêtres n'est pas suffisant pour être Messie. C'est néanmoins un bon début. Le lieu de naissance et la lignée sont bonnes, et Jésus allait ensuite devenir adulte, vivre sa vie et se montrer digne du titre de Messie. Il se comporterait comme Dieu, qui est bon, parfait, fiable. Comme Dieu, il dirait la vérité. Comme Dieu, il ferait des guérisons miraculeuses. Comme Dieu, il ferait preuve d'une sagesse inouïe. Comme Dieu, il avait de l'amour pour les humains et changeait leur vie. Si vous ne croyez pas que Jésus était Dieu, vous devez croire soit que ces choses n'ont pas eu lieu, soit qu'elles ont été exagérées. Si elles n'ont pas eu lieu, qui les a inventées? Qui a pu avoir l'imagination, la créativité pour inventer une telle sagesse, une telle grandeur, un tel miracle? Mais si elles ont été exagérées, pourquoi est-ce que quelqu'un les a crues? Il a dû y avoir, au départ, quelque chose d'interpellant, quelque chose de tellement frappant que les gens ont été convaincus que voici vraiment le Messie, voici vraiment le Fils de Dieu. Ces choses extraordinaires se sont passées, des guérisons, des signes miraculeux. Et des gens fiables, comme Luc, ont écrit ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de convaincant, n'est-ce pas, quand il y a un témoignage personnel. Quand des journalistes, par exemple, cherchent à savoir ce qui s'est passé à un endroit où ils n'étaient pas, ils interrogent les témoins sur place, les gens ordinaires qui étaient là et qui peuvent dire, ben, j'étais là, j'ai vu, j'ai entendu ceci ou cela. Leur témoignage personnel compte pour écrire des infos précises. Et ceux qui ont vu Jésus et l'ont accompagné pendant de longues années, les disciples, sont ceux qui étaient le plus convaincus que Jésus était le Messie et le Fils de Dieu en personne. Ils l'ont dit d'ailleurs même sous la menace. En Actes chapitre 4, verset 20, ils disent, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Ils ont vu Jésus, ils ont entendu Jésus, ils ont été convaincus, ils ont parlé à partir de cette conviction personnelle. C'est vrai que Jésus n'a pas accédé à un trône dans un palais. Il n'a pas conduit de révolution, mais il était roi. Il a fait le nécessaire pour qu'il soit roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde, un royaume éternel, et qui est dans la lignée de David, mais qui est au-dessus de son peuple, le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous croyons qu'il est roi. Depuis ce moment-là, en accomplissant la parole, le royaume de Dieu est arrivé. Nous prions que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Aujourd'hui, nous voyons ce règne établi au ciel. Jésus règne à la droite de Dieu, mais il règne aussi à travers les gens de l'Église dans le monde entier. Les gens se tournent vers lui et acceptent son règne sur leur vie, sur notre vie. Le récit avance ayant parlé de ce Messie qui est né de la bonne lignée, la lignée messianique. Maintenant, il parle d'autres personnages qui étaient là aussi à Bethléem et qui ont entendu une annonce spéciale de la naissance de Jésus. Ils étaient des bergers qui, ce soir-là, ne dormaient pas et ont entendu des anges. C'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Sauveur. Elle est annoncée par des anges, ces êtres spectaculaires qui ne sont pas des humains, annoncent un message spécial de Dieu. Je vais relire les versets 9 à 11. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Il leur dit d'abord que c'est une bonne nouvelle. Et là, on comprend que ce n'est pas seulement un grand événement historique, l'accomplissement des prophéties et la venue d'un roi, mais d'un sauveur. Il vous est né un sauveur. Dieu agit pour notre bien, pour sauver son peuple. Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde ou pour l'écraser par sa puissance, mais pour sauver des gens. Mais le sauver de quoi? Important de comprendre de quoi nous sommes sauvés, et nous pouvons le comprendre en regardant le moyen de salut que Dieu a mis en place. Voyez-vous, le type de secours indique quel danger il y a. Le type de secours nous indique quel type de danger il y a. Par exemple, vous êtes à la mer et vous voyez arriver l'ambulance. Pensez à quelqu'un a eu un malaise. Peut-être que quelqu'un s'est évanoui ou a eu une crise cardiaque. Vous voyez les pompiers qui arrivent, ben vous savez qu'il y a le feu dans un des immeubles à la côte. Vous voyez les hélicoptères, un hélicoptère qui part au-dessus de la mer, vous voyez qu'il y a quelqu'un, vous imaginez que c'est quelqu'un qui est en train de se noyer ou qui a été emporté par les vagues. Le type de secours indique quel danger il y a, si c'est une question de santé, de noyade ou de feu. Alors si Jésus est celui que nous croyons, le roi qui accomplit les prophéties de la Bible, pourquoi en avons-nous besoin? Qu'est-ce qu'il peut bien faire pour nous sauver? Ben, en regardant le type de secours que Dieu a envoyé, nous comprenons mieux ce qui était nécessaire. Nous comprenons mieux quel est notre problème, dans quel danger sommes-nous. Et la réponse de Dieu vient en fait au verset 14, indiqué par la parole d'autres anges, probablement en train de chanter. Après l'annonce d'un ange, c'est tous les anges qui sont là, et probablement ils sont en train de chanter, mais ce qui est marquant, c'est que ce sont les paroles de leur chant. Il est dit, verset 13, ils disaient, pour attirer l'attention à leurs paroles, verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. C'est cela que le nouveau-né apporte, la gloire à Dieu et la paix sur la terre. Il vient ramener quelque chose du ciel sur la terre, apporter quelque chose à la terre qui nous met en contact avec Dieu. Parce que si nous considérons simplement notre état terrestre, ben nous savons que le monde n'est pas en paix depuis la venue de Jésus. Même au premier siècle, il y a eu des guerres dévastatrices. Il n'y a pas la paix entre les hommes. Pareillement, les gens ne sont pas bienveillants. Il n'est pas en train de décrire l'humanité, mais d'annoncer une bonne nouvelle. La paix est possible. La bienveillance de Dieu agit envers l'humanité. Mais ce n'est pas une description de nos rapports entre nous, la paix et la bienveillance. Il faut comprendre que la paix devient possible entre nous et Dieu. Peut-être que cela vous surprend parce que vous pensez que vous avez déjà la paix avec Dieu, parce que Dieu est quelqu'un de gentil, comme un vieux papy dans le ciel. Non, la Bible nous présente plutôt un Dieu qui est juste, un Dieu qui est souverain, et qui discerne bien notre état spirituel. Il voit que en nous, nous n'avons pas suffisamment de bonté pour être dans sa sainte présence. Il voit comment nous avons tendance à suivre notre propre chemin, à nous éloigner de lui parce que nous voulons vivre pour notre plaisir et faire notre volonté plutôt que la sienne. Alors bien sûr, la forme de la vie peut être bien différente. Deux hommes peuvent prendre des chemins très différents. Un homme va devenir un homme de famille responsable et droit. Un homme qui a du succès peut-être dans ses entreprises, dans son travail, peut-être qui travaille dur. Un autre homme va vivre dans la perversité et la méchanceté, peut-être dans l'oisiveté. Il va profiter des autres. Ça va être quelqu'un qu'on voudra éviter. Mais les deux s'éloignent de Dieu du moment où ils sont en train de vivre pour eux-mêmes. Et donc, ils vont à leur perte. Nous avons besoin de quelqu'un parce que nous n'étions pas en paix avec Dieu. Jésus est le sauveur qu'il nous faut pour créer la paix entre Dieu et nous. Et dans sa bienveillance, c'est exactement ce qu'il veut faire. Je vous invite donc à considérer cette naissance de Jésus complètement différemment. Ce n'est pas une histoire insolite, d'un fait divers surprenant. C'est une partie du plan de Dieu pour secourir l'humanité d'un danger que nous avons sous-estimé, le danger d'être coupé de Dieu, notre Créateur. Lui est la source de la vie. Lui est celui qui nous donne tout. Et nous avons tout pris pour ensuite tourner le dos à Dieu et décider de vivre pour nous-mêmes. Et ce chemin-là mène à la mort. Jésus est venu pour nous apporter la paix. Jésus est venu pour que le ciel et la terre puissent être réconciliés. Alors si nous sommes chrétiens, ça nous réjouit énormément. Voici le début de l'accomplissement du plan de secours que Dieu a mis en place. Tout ce qui va suivre dans l'Évangile, les miracles, les bons enseignements, les discours de Jésus, son appel aux disciples à le suivre, tout cela part de ce moment où le Fils de Dieu s'est incarné dans notre humanité. Et c'est une bonne nouvelle qui a été annoncée, une source d'une grande joie pour tout son peuple. Et donc nous pouvons nous réjouir. Mais c'est vrai que tout cela nous engage. Nous avons tout misé sur lui. Mais ce n'est pas de manière aveugle. Nous croyons qu'il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament et qu'il est né au bon endroit, de la bonne lignée, qu'il est digne de notre confiance, qu'il est vraiment celui qui était attendu depuis l'Ancien Testament et depuis que les prophètes avaient annoncé qu'il viendrait. Nous croyons à sa bienveillance, à son salut, et notre foi n'est que fortifiée en lisant ce qui a été dit à sa naissance. Je vous encourage aussi, si vous êtes déjà croyant en Christ, soyons satisfaits en lui. En cette période où nous avons beaucoup de cadeaux et nous avons envie d'autre chose, peut-être que nous sommes à la recherche de satisfaction par des cadeaux qui pourraient nous être offerts. Mais vous savez, vous ne serez pas satisfait par des choses matérielles. Nous avons besoin d'une satisfaction qui est bien plus grande que simplement celle des cadeaux sous le sapin. Si vous recevez des beaux cadeaux cette année, vous aurez encore envie l'année prochaine de plus de cadeaux, d'autres choses. Mais la vraie satisfaction se trouve lorsque notre âme est comblée en lui, notre Sauveur et notre Seigneur. Mais je veux aussi dire un mot à ceux qui ne partagent pas notre foi. Vous êtes les bienvenus n'importe quel dimanche. Vous pouvez découvrir plus sur ce Jésus, dimanche après dimanche. Mais vous avez entendu aujourd'hui que Jésus est venu apporter la paix sur la terre. Dans sa bienveillance, il annonce sa volonté de sauver l'être humain. Vous avez besoin de vous renseigner par rapport à ça parce que c'est important que vous aussi puissiez connaître la paix et la vie à laquelle Dieu vous appelle. La question que j'ai pour vous est, qui est Jésus? Peut-être que vous n'êtes pas sûr qui est Jésus. Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question. Peut-être que vous avez votre propre idée, mais est-elle vraie? Êtes-vous sûr de l'opinion que vous vous êtes faite sur Jésus, si elle est vraie ou pas? En fait, c'est la question la plus importante. Car s'il est le Fils de Dieu qui sauve et qui peut apporter la paix entre Dieu et vous, alors c'est vital de le connaître. Je vous encourage à regarder quelques vidéos chez vous, tout simplement en tapant dans votre moteur de recherche quiestjesus.com. Quiestjesus.com. Et là, vous aurez quatre courtes vidéos d'une dizaine de minutes chacune qui présentent, selon la Bible, qui est Jésus et qui montrent qu'il est le centre de tout le plan de Dieu et qu'il est celui qui peut nous réconcilier avec Dieu. Vous pouvez aussi, bien sûr, lire un évangile. J'ai cité Luc. Pourquoi pas lire tout l'entièreté de l'évangile de Luc? Ce n'est pas si long que ça et vous pouvez assez aisément le lire et vous faire votre propre idée. Qui est Jésus? La Bible l'annonce comme celui qui est le Sauveur, le Messie, venu pour nous sauver. Je vais terminer par la prière. Père Céleste, merci pour tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Merci parce que tu es celui qui, déjà à l'époque, a voulu te faire connaître. Et aujourd'hui encore, tu es prêt à te faire connaître à ceux qui te cherchent. Permets, Seigneur, que nous puissions comprendre la vérité sur qui est Jésus, son rôle, son salut, sa bienveillance envers nous et son désir d'être en paix avec nous. Que nous puissions vivre selon ce que nous chantons à Noël, la satisfaction, la grande joie pour tout le peuple à cause de cette bonne nouvelle. Et tout cela, je te prie, au nom de Jésus. Amen.